Il était un homme qui restait accroché à son idéal. Le moins que l'on puisse dire d'un génie de cette nature, c'est que le monde vient de perdre un grand homme.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Maurice Ardot.
À défaut de réinventer le futur, chaque samedi à 19h sur France Culture, Jukebox ressuscite le passé via des archives, des musiques et parfois, comme ce soir, un invité. Alors que se tiennent jusqu'à demain les 22e rendez-vous de l'histoire de Blois, mettant l'Italie à l'honneur, Jukebox revient sur un épisode un peu oublié, la prise, il y a un siècle tout juste, de la ville de Fiume par Gabriele D'Annunzio. Fiume, petit port de l'Adriatique, correspondant à l'actuelle ville de Rijeka en Croatie, et qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, les nationalistes italiens souhaitaient offrir à Rome. Expérience militaire, artistique et utopique, cette parenthèse durera 500 jours avant que la réalité géopolitique ne l'engloutisse et que Mussolini ne tire du feu les marrons populistes. Cette histoire, nous vous la raconterons ce soir en compagnie d'un invité, Olivier Tosseri, journaliste et auteur d'un récent essai sur cette histoire rocambolesque. Ce soir, 1919, D'Annunzio, un balcon à Fiume. C'est un petit homme chauve, la moustache fine et l'air ténébreux qui, accroché à la rambarde d'un balcon, s'adresse à la foule massée en contrebas, tentant de mettre toute l'intensité possible dans ses paroles, dont il détache avec soin les syllabes. Du haut de son perchoir de prédicateur, de tribun, ce balcon de pierre du palais du gouverneur de Fiume, niché en haut d'une colline face à l'Adriatique, il déroule sa verve, ses tournures poétiques, ses envolées conquérantes. De la foule qui le scrute et l'écoute, Gabriele D'Annunzio ne distingue presque rien, ça n'est pas un secret. Depuis un accident pendant la guerre, il est aveugle de l'œil droit et le gauche est fatigué d'une myopie que sa coquetterie empêche de corriger. Résultat, les visages en contrebas ne sont pour lui qu'une masse floue et vibrante, de vagues têtes chapeautées et puis le noir des chemises de ses fidèles légionnaires, les Arditi. À distance, il ne voit rien des détails, des traits crispés de détresse, des larmes qui ravinent certaines joues. « J'accepte mon drame et je le domine », lance-t-il solennel. « Je le dominerai jusqu'au bout, jusqu'à la catastrophe, sans que ne tremblent mes poignets, que personne n'en doute. » En réponse lui parvient le bruissement de la foule. Ce jour de la fin 1920, qu'il paraît loin, ce temps où Gabriele D'Annunzio électrisait son auditoire, ces jours glorieux de l'espérance et de la conquête. Ce jour-là, la situation est grave, pour ne pas dire désespérée. La poésie ne peut pas tout, le poète ne peut pas tout. Ce même constat amer qu'exprimait quelques années plus tôt un autre soldat écrivain, André Chénier, dans l'opéra tiré de son existence tragique.
Ho cantato
J'étais soldat, j'ai glorieusement affronté la mort, j'étais un érudit, j'ai fait de mon stylo une arme féroce contre les hypocrites. Avec ma voix, j'ai chanté la patrie, mais je ne suis pas un traître. Tuez-moi, mais laissez-moi mon honneur. Extrait de l'opéra Andrea Chénier, composé en 1896 par l'italien Umberto Giordano, à partir de la vie de Chénier, poète français guillotiné lors de la Révolution française, malgré ses prises de position envers les plus miséreux, mais qui avait péri de son opposition à la Terreur et à Robespierre, d'autant que, comme le lui avait indiqué Fouquier-Tinville, la République n'a pas besoin de poètes. Bonsoir Olivier Tosserie.
Bonsoir.
Journaliste, vous êtes correspondant à Rome pour la presse française, notamment le quotidien Les Échos. Vous y vivez depuis une dizaine d'années. Et vous avez plongé dans l'histoire fascinante de l'expédition de D'Annunzio à Fiume pour en livrer un passionnant récit, La folie d'Annunzio, paru chez Buchet-Chastel. Alors avant de nous pencher sur le destin de cet étonnant poète combattant, revenons d'abord sur le point de départ. 1918, l'Italie sort de la Première Guerre mondiale, meurtrie,
c'est ça ? Exactement.
Mais à la signature de l'armistice, s'ouvrent les négociations du traité de Versailles. L'Italie a de grandes espérances, elle espère rentrer dans le club des grands et notamment récupérer, au détriment de l'Autriche-Hongrie, d'anciens territoires situés plus à l'est.
Exactement, l'Italie qui a participé à la Première Guerre mondiale du côté des Alliés, donc du côté des vainqueurs, mais qui, à l'issue du conflit, se sent frustrée de ses revendications nationalistes. C'est une nation jeune, l'Italie, elle a été unifiée en 1861. Et au début de la guerre, elle est du côté de la Triplice, donc des empires centraux avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Elle proclame sa neutralité quand le conflit éclate et pendant presque une année, elle joue un peu sur tous les tableaux en essayant de négocier son entrée en guerre pour essayer d'y participer de la manière la plus avantageuse pour elle. Elle signe donc ce pacte de Londres, un pacte secret en avril 1915 et là les alliés, en échange de son intervention, lui promettent énormément de choses et en particulier donc des territoires au détriment de l'Empire austro-hongrois.
Donc Trieste, le Trentin, l'Istrie, la Dalmatie, en gros des territoires qui sont situés dans l'actuelle Slovénie, la Croatie, ces petits territoires à l'est de Venise. Elle espère les récupérer à l'issue du conflit.
Exactement, les terres irrédentes, c'est son but de guerre à l'Italie pour parachever son unité donc récente. Des territoires qui sont peuplés majoritairement d'Italiens, mais pas toujours. Et c'est exactement le cas de Fiume.
Et du coup, au fur et à mesure que progressent les négociations post-première guerre, on oublie que ça dure très très longtemps, ils comprennent qu'ils ne vont recevoir que des miettes.
Exactement, parce qu'en face, les États-Unis, avec un président, le président Wilson, qui exècre la diplomatie secrète et donc qui refuse d'honorer le pacte de Londres. Et donc ça, la crise va naître et va nourrir la crispation et la frustration italienne et le nationalisme blessé des Italiens.
Donc, on l'a dit, Wilson tente d'arbitrer le différend entre d'une part les Italiens et d'autre part les Serbes, Croates et Slovènes qui se sont constitués en royaume. Et là-dessus, il a une arme vis-à-vis de Rome qui est l'argent que les États-Unis injectent dans la reconstruction de l'Italie. Donc il tient l'Italie.
Exactement, parce que l'Italie, comme l'Europe au sortir de la Première Guerre mondiale, est complètement exsangue. Elle a perdu 650 000 hommes au cours des combats, elle est fortement endettée, elle a des problèmes de ravitaillement, et donc elle a besoin à la fois de l'argent américain et des vivres américains pour se redresser au sortir de la Première Guerre mondiale.
L'Italie s'enflamme donc pour la question de Fiume, et parmi ceux qui soufflent sur les braises, on trouve donc Gabriele D'Annunzio, un poète nationaliste, et qui, le 12 septembre 1919, débarque dans cette ville en décapotable rouge, précisez-vous dans votre livre, suivi de 200 hommes, dans une liesse incroyable.
Oui, exactement. Gabriele D'Annunzio, qui a donc tout au cours de l'année 1919, la première partie de l'année 1919, réclamé à corps et à cri et a mis toute sa faconde, toute sa verve au service donc de cette revendication de Fiume. Il arrive, il rentre dans cette ville de Fiume en liesse, pavoisée, aux couleurs de l'Italie, et qui l'acclame et qui l'accueille en libérateur et en héros.
D'après un texte écrit en langue napolitaine en 1907 par Gabriele D'Annunzio, mis en musique par Paolo Tosti, cette vocella, cette si douce bouche de femme qu'espère conquérir un homme, interprétée ici par le ténor Tito Gobbi. Olivier Tosserie, D'Annunzio, qui est-il? Qu'est-ce qu'on peut en dire pour le présenter?
C'est le grand poète et le grand écrivain national italien. Il est né en 1863 dans les Abruzzes. Il est monté à Rome à la fin du 19e siècle. Il a incarné cette Rome de la Belle Époque. C'est un peu un huissemans italien avec une série de romans qui caractérise un peu cette littérature fin de siècle, décadente. Il a été journaliste mondain également. C'est un dandy, un homme à femme.
Il n'est pas très beau d'ailleurs, mais je crois qu'il a beaucoup de succès.
Exactement, 1m60, les dents gâtées, mais il a énormément de verve, de faconde, et il a un pouvoir d'attraction et de séduction, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, qui lui assure un succès dans les salons mondains, dans les rédactions de journaux, auprès d'un large public en Italie et aussi à l'étranger.
Journaliste, auteur de pièces de théâtre, de nouvelles, de poésie, de romans. En 1900, il écrit Le Feu, dans lequel il raconte qu'il y a de par le monde des actions à faire, des conquêtes à poursuivre, des rêves à exalter, des destins à forcer, des lauriers à cueillir. On sent son lyrisme, sa verve, son esprit de conquête.
Oui, et l'envie surtout de faire de sa vie une œuvre d'art, quelque chose d'inimitable, avec cette conscience que la vie est un peu terne, la routine du quotidien l'ennuie, et pour échapper à cette malédiction, entre guillemets, il court après le plaisir, l'envie de grandes actions et de se dépasser continuellement.
À court d'argent, sans doute, il fuit en 1910 en France pour justement fuir ses créanciers. Il va à Paris, à Arcachon, c'est une sorte de jet-setter. Il aime les arts, il aime la musique de Wagner. Il rencontre Debussy en France, pour qui il écrit le livret du Martyr de Saint-Sébastien, qui est donné en mai 1911 au Théâtre du Châtelet.
22 mai, soir de la première. Nous voici de nouveau au Châtelet. Un an après que D'Annunzio y a rencontré Ida Rubinstein. On reconnaît, avant le lever du rideau, Robert de Montesquieu, Élisabeth de Gramont, le peintre Romaine Brooks. Parmi les critiques, voici Adolphe Brisson, du Figaro, Henri Bidou, Henri Guéon, Léon Blum. Les musiciens sont là, Pierre Lalo, Reynaldo Hahn. Il y a Anatole France, il y a Jean Cocteau. Au pupitre, André Caplet. Engelbrecht est, avec Émile Villermoz, le chef des chœurs et du chant.
J'entends venir un autre chant. J'entends les sept luttes éternelles. Les lys font toute la lumière. Ils font toute la mélodie. Tous les fauchés et ils renaissent, tous les brisés ils sont debout, ils ont la tige impérissable. Voici les sept témoins de Dieu, les chefs de la milice ardente, tout le ciel chante.
Les chefs de la milice ardente, Olivier Tosseri, parce que dans la foulée éclate donc la Première Guerre mondiale. D'Annunzio est en France à ce moment-là et il va se mobiliser pour l'entrée en guerre de l'Italie.
Exactement. L'Italie, qui est encore au début du conflit hésitante sur l'attitude à adopter, est-ce qu'elle doit rester neutre, est-ce qu'elle doit participer au conflit. Il rentre en Italie en 1915 et il multiplie les discours, les harangues, les manifestes, les odes nationalistes pour chauffer à blanc l'opinion publique et la pousser dans les bras des alliés. La guerre éclate. Il est heureux de cette guerre qui le relance, le remet aussi sur le devant de la scène.
Parce qu'il après a quoi, ses années d'exil,
il a 52 ans. Et il s'engage dans l'armée pour participer au conflit. Pour lui, vraiment, l'expression « théâtre des opérations » est une expression qui lui va à ravir, puisqu'il est parfaitement heureux de pouvoir prendre part à cette guerre spectaculaire, à cette guerre aussi spectacularisée. Il aime bien se mettre en scène. Et ces opérations militaires ressemblent souvent à des happenings artistiques.
Des happenings artistiques, c'est ce que vous écrivez. Il y a notamment ce fameux vol sur Vienne en août 1918.
Exactement, un raid de 1000 km où, à la tête d'une escadrille, la Sérénissima, il pointe sur Vienne et opère un bombardement pacifique puisqu'il déverse sur la ville des tracts tricolores appelant les Autrichiens à se rendre.
Ces tracts qui disent « Viennois, apprenez à connaître les Italiens, nous volons au-dessus de vous, de Vienne, nous pourrions larguer des tonnes de bombes, nous ne vous lançons qu'un salut tricolore, les trois couleurs de la liberté. Nous autres Italiens ne faisons pas la guerre aux enfants, aux vieillards, aux femmes, nous faisons la guerre à votre gouvernement, ennemi de la liberté des nations, à votre gouvernement aveugle, obstiné et cruel, qui ne parvient à vous donner ni la paix, ni le pain. » Quel panache cette opération, Olivier Tosseri ?
Oui, un vol sur Vienne qui le fait rentrer dans la postérité, qui lui assure une grande renommée internationale. Tous les journaux en parlent, des journaux français aux journaux américains, en passant par les journaux britanniques. Même les Autrichiens sont jaloux, comme vous le dites, du panache de D'Annunzio et se demandent où et notre D'Annunzio. En tout cas, grâce à ce raid sur Vienne, il assure cette image de poète-soldat qu'il s'est acquise sur les champs de bataille au cours de la Première Guerre mondiale.
Et c'est un peu de ce panache dont il va faire montre en septembre 1919, tandis qu'il s'approche de Fiume.
«
septembre 1919, D'Annunzio rentre donc à Fiume. Est-ce qu'on peut décrire
cette marche de Ronchi? Ronchi, c'est la petite ville d'où il part pour se diriger vers Fiume. C'est un peu, on est un peu entre le Cid et le vol de l'aigle de Napoléon. Ils partirent 186, les 186 soldats avec lesquels il part de Ronchi. Et par un pont renfort, il se vire 2500 à peu près en arrivant au port de Fiume. À chaque barrage que placent sur sa route les autorités, eh bien, ce sont des ralliements de soldats, des ralliements enthousiastes.
De soldats italiens.
De soldats italiens.
De l'armée régulière qui se joignent à ces insurgés.
Exactement, qui partagent cette passion, cette foi nationaliste et cette envie d'arracher la ville de Fiume et de la rattacher à la mère patrie italienne. Et ces ralliements de la part de l'armée régulière font penser, comme je vous le disais, au vol de l'aigle de Napoléon. À un moment, il est même arrêté par un haut gradé et il lui montre sa poitrine en lui disant « Vous n'allez pas faire tirer sur vos frères d'armes, sur des hommes qui ont fait la guerre avec vous. » Donc, il entre dans cette ville au volant de sa Fiat décapotable rouge. Une entrée très, très futuriste.
Futuriste, théâtrale, pas un coup de feu tiré, pas un mort, je crois, ce jour-là. Tandis que lui s'achemine dans son auto, ses arditi, ses fidèles légionnaires entonnent eux leur hymne, la Giovinezza, la jeunesse, une chanson composée 10 ans plus tôt pour exalter la jeunesse de Turin lors du carnaval.
Solleviamo al parafate che ci illumini il cammino nel lavoro, nella pace, sia la vera libertà. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, nel fascismo e la salvezza. Bandiera che agitammo la battaglia, vittorioso al nuovo sole, stretti a rete abbiamo lottare, è l'Italia che lo vuole, per l'Italia vincerà. Giovinezza, giovinezza, primavera. Fascismo e la salvezza della nostra libertà. Sorge al fin lavoratore, giunto al dì della riscossa, e prepararono il sudore. Alla la sommossa, sulle belle tra i fori, che ti strinsero a catena, alla gogna, agli impostori, degli asiati che virtù. Giovinezza, giovinezza, del fascismo la salvezza della nostra libertà. È l'Italia che lo vuole, eia, eia, ara, ara.
La Giovinezza, la jeunesse composée en 1910, donc, pour exalter la jeunesse turinoise en vue du carnaval, une chanson qui sera d'ailleurs reprise plus tard par les fascistes, et c'est cette version, Olivier Tosserie, qu'on entendait à l'instant.
Exactement, avec à la fin de la chanson « Eia Eia Lala » qui était le cri de guerre poussé par D'Annunzio pendant la Première Guerre mondiale et affumé par ces hommes, qui a été également repris ensuite par le fascisme.
Les liens entre les hommes de D'Annunzio, l'aventure de Fiume et les fascistes, on y viendra un peu plus tard. Pour l'instant, on est en septembre 19, D'Annunzio et ses hommes viennent de prendre la ville, et c'est ce que vous racontez dans votre livre, des milliers de volontaires, de soldats affluent vers Fiume. Pourquoi ?
C'est une ville qui est synonyme d'espérance, c'est un petit surplus d'exaltation après celle vécue pendant le conflit. J'appelle ça un peu le syndrome de Fiume, comme il y a le syndrome de Florence. C'est encore 5 minutes. Encore 5 minutes d'exaltation guerrière pour les jeunes qui le suivent, pour les Arditi. C'est encore 5 minutes au centre de la scène, au centre de l'attention. Et aussi, oui, cette exaltation, puisque personne ne veut rentrer dans une vie morne, terne. Et pour ces jeunes qui ont participé au conflit, retourner derrière une charrue, un guichet de banque ou un pupitre, mais encore continuer à vivre de manière exaltée, exaltante.
Les Arditi, qui sont-ils ? C'est pas l'équivalent de nos poilus. C'était des unités d'élite, des commandos, c'est ça ?
Oui, des nettoyeurs de tranchées, des troupes de choc italiennes qui étaient composées de volontaires pour les missions les plus périlleuses, les missions les plus risquées, et qui sont à la fin du premier conflit mondial les âmes fêlées, qui ont du mal à se réintégrer dans la société pacifique, et ils n'ont qu'une envie, c'est de prolonger ce conflit dont ils sont les véritables héros.
Sexe, drogue et foxtrot, écrivez-vous, Olivier Tosserie, pour qualifier cette atmosphère joyeuse, irréelle, qui s'installe alors à Fiume, c'est ça ?
Exactement. D'Annunzio était aviateur, on l'a dit. Beaucoup de membres de son entourage l'étaient aussi. Les aviateurs qui faisaient usage de cocaïne pour rester éveillés au cours des longues heures de vol. D'Annunzio en fait aussi un usage assez conséquent. Donc la cocaïne fait son entrée à Fiume et on en consomme allègrement. Il y a une ambiance de 14 juillet perpétuel, constant, écrit Albert Londres, qui est dans la ville pour une série de reportages. C'est effectivement le début un peu des années folles. On est en 1919-1920. Il y a cette envie de vivre. C'est une ambiance de fête, de fanfare de rue, des concerts qui se multiplient dans les théâtres de la ville, dans les maisons aussi des Fiumains qui organisent des soirées auxquelles participent les officiers qui sont dans l'entourage de Gabriele D'Annunzio. Marcel Boulanger, un journaliste écrivain français ami de D'Annunzio, écrit même que le foxtrot est pratiqué avec un art, une perfection rare en au dancing par les Arditi. Oui, il y a cette envie de vivre, cette envie de faire la fête.
Foxtrot, ragtime ou jazz ? France Culture, Jukebox, ce soir, Fiume 1919, l'imagination au pouvoir. Ça, c'est pour l'effervescence musicale qui règne alors à Fiume, Olivier Tosserie. Et pendant ce temps-là, D'Annunzio, poète, précipité, gouverneur de la ville, déploie son art oratoire. C'est jusqu'à 3 discours par jour, je crois, qu'il prononce à cette époque-là.
Exactement. Il s'est découvert orateur, dit-il à son secrétaire, à Fiume. Il adore prendre la parole, haranguer les foules. Et...
C'était la scène que je racontais en introduction de cette émission, une petite scène fictionnée, mais qui raconte ce qui se passait vraiment, c'est-à-dire un homme qui se présente au balcon, acclamé par une foule. Qu'est-ce qu'il leur dit ?
Il les exalte, il chauffe à blanc la population pour ne pas qu'elle abandonne sa cause. Et donc il a ce merveilleux oratoire qui à la fois mélange d'élocutions latines, des références très cultivées, et en même temps il n'hésite pas également à faire des jeux de mots ou des références scabreuses. Il sait parfaitement jouer sur tous les registres pour éveiller et maintenir haut le moral des Fiumains.
Et les inciter à tenir bon, parce que pendant ce temps-là, les pressions politiques de Rome et des alliés sur cette ville se renforcent, d'autant que, rapidement, les conditions de vie à Fiume sont rendues compliquées par le blocus, c'est ça ?
Exactement, comme le gouvernement italien ne peut pas déloger D'Annunzio et sa troupe par la force, il décide de jouer la carte de l'usure et donc proclame ce blocus, un blocus au début assez léger, assez perméable, puisque cela n'empêche pas, comme on l'a dit tout à l'heure, de nombreux jeunes de rallier Fiume et de rallier D'Annunzio. Le président du conseil permet également à la Croix-Rouge de délivrer des vivres à la ville, mais au fil des mois, les vivres vont se faire de plus en plus rares et les conditions de vie des Fiumains va être de plus en plus difficiles, surtout que la vie économique est complètement à l'arrêt, les usines sont fermées, les chantiers navals qui donnaient beaucoup de travail à la population à Fiume ne fonctionnent plus. Et donc la situation va se dégrader de mois en mois et mettre à dure épreuve les Fiumains et la mainmise de D'Annunzio sur la ville.
Ces conditions de vie difficiles qui allument d'autres feux et d'autres colères. Des chants à la mère, de la mine à l'atelier, celui qui souffre et espère qu'il se tienne prêt. C'est l'heure du sursaut, le drapeau rouge triomphera Vive Lénine, la paix et la liberté. La bandiera rossa, le drapeau rouge, célèbre chant révolutionnaire italien, parce que Olivier Tosserie, rapidement, après avoir été un repère de nationalistes, Fiume va attirer à elle l'extrême gauche.
Exactement. À l'époque, la révolution bolchévique a éclaté en 1917. Lénine dit même en signe de provocation qu'il n'y a qu'un véritable révolutionnaire en Italie, c'est D'Annunzio. Et D'Annunzio, au cours de l'année 1920, va appeler à ses côtés un syndicaliste révolutionnaire, Alceste De Ambris, qui va essayer de mettre en œuvre à Fiume ses idées en matière de progrès social et en matière politique surtout.
Justement, ces idées-là, elles seront incarnées en septembre 1920. Ça fait donc tout juste un an que Fiume est aux mains des légionnaires de D'Annunzio, quand est proclamée une constitution, drôle de constitution, extrêmement moderne. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ?
Oui, cette constitution qui est très très progressiste et très en avance pour son temps, puisqu'elle reconnaît l'égalité homme-femme, le divorce est autorisé, le droit de vote à 20 ans pour les hommes comme pour les femmes, un état-providence assez en avance, là encore pour son temps, est décrit dans cette constitution avec des indemnités chômage, avec des retraites. C'est vraiment une constitution qui est en avance, mais qui ne sera jamais appliquée, qui aura d'ailleurs ce charme des constitutions qui ne sont jamais appliquées, comme celle de 1793 en France ou la constitution soviétique de 1918.
Et donc, dans cette utopie, place est donnée aux arts, avec le projet de construction d'une université, d'une école des beaux-arts, d'une autre des arts appliqués, d'une autre école encore de musique. La musique, d'ailleurs, D'Annunzio prévoyait la construction d'une immense rotonde, d'une salle de spectacle, à même d'accueillir 10 000 spectateurs. En attendant, c'est dans la Fenice, le théâtre de la ville construit en 1914, et pas encore terminé d'ailleurs à l'époque, que se produit le 20 novembre 1920, le grand Arturo Toscanini, le grand en chef d'orchestre, invité par D'Annunzio. Les 2000 places du théâtre sont prises d'assaut au programme du soir. Wagner et Debussy, aimés de D'Annunzio, mais surtout des œuvres de compositeurs italiens, Vivaldi, Verdi ou encore Ottorino Respighi. extrait du poème symphonique d'Ottorino Respighi, dont on entendait le premier mouvement consacré au jeu du cirque. On sent toute la tension dramatique du gladiateur dans l'arène. Mais à ce programme donné en novembre 1920 au théâtre de Fiume, manque-t-il, Olivier Tosseri, un requiem? C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Requiem d'autant qu'une semaine plus tôt, un traité, le traité de Rapallo, a douché quelque part les espoirs des insurgés.
Douche froide, puisque le traité de Rapallo permet de régler le contentieux entre la Yougoslavie et l'Italie. Respectivement, les deux pays renoncent à leurs prétentions territoriales sur le territoire de l'autre et proclament Fiume comme ville indépendante, comme une sorte d'état tampon. C'est ce que ne voulaient pas du tout les insurgés, qui voulaient
le rattachement à l'Italie
et maintenir une position intransigeante et en étant persuadés que l'Italie les suivrait, les Italiens les suivraient, mais au bout de 15 mois d'occupation, et les Fiumains et les Italiens sont un peu lassés de cette situation et ils se retrouvent donc seuls face au gouvernement italien, au gouvernement de Giovanni Giolitti, qui est le nouveau président du Conseil et qui veut en finir et qui veut régler définitivement cette situation.
Et du coup, comment perçoit-on D'Annunzio? Est-ce qu'on ne commence pas à trouver que la comédie a assez duré?
Oui, la fête a un peu trop duré au bout des Fiumains qui se lassent des difficultés de rationnement, qui sont de plus en plus choqués par l'attitude désinvolte puis violente des légionnaires qui multiplient les exactions, les provocations, les vexations. Ils n'ont qu'une envie maintenant, c'est d'être débarrassés de cette jeunesse turbulente qui empêche le retour à la normale dans leur ville.
Et résultat, le gouvernement italien pose un ultimatum. Il dit à D'Annunzio, vous évacuer la ville avant Noël. D'Annunzio refuse, il croit une partie de bluff, il traîne la patte et c'est le 24 décembre 1920 ce qu'on appelle le Noël sanglant.
Exactement, le Noël de sang qui est une formule de D'Annunzio. Là encore, on voit le formidable sens de la formule de D'Annunzio qui dénonce ainsi la répression italienne et ce qu'on peut appeler une guerre civile puisque ce sont des troupes régulières italiennes qui tirent sur des Italiens faisant une cinquantaine de victimes au cours de ce Noël de sang et qui oblige D'Annunzio a quitté la ville au début de l'année 1921.
Dans quel état ?
Mélancolique, amer, il décide de repartir en exil, il ne sait pas très bien où, à un moment il pense reprendre le chemin de la France, le consul français à Trieste lui accorde même un visa. Finalement, il décidera de se réfugier sur les bords du lac de Garde, dans une villa qu'il achète et va décider de terminer sa séjour.
Oh,
La détresse de Cagno, tirée de l'opéra La Paillasse, signé Ruggiero Leone Cavallo. Que la fin de cette histoire est triste, Olivier Tosseri. D'Annunzio, chassé de Fiume, va donc trouver refuge dans une somptueuse demeure sur les bords du lac de Garde. Mais enfin, on sent que derrière le faste de la demeure et du mode de vie, le cœur n'y est plus.
Non, il a envie de se consacrer à sa carrière littéraire qu'il avait mis un peu de côté et qu'il avait délaissé au cours de ces années de conflit et de ces 15 mois à Fiume. C'est surtout le début de la vieillesse pour lui, voilà, la fin de cette époque héroïque, glorieuse. Il trouve donc refuge dans cette villa au bord du lac de Garde qu'il va ensuite transformer en musée, mausolée, à sa gloire, hein, et à la gloire de ces hommes qui l'ont suivi à Fiume. C'est une prison dorée puisqu'il y restera cloîtré, bénéficiant évidemment des libéralités et du soutien du régime fasciste qui préfère le voir isolé et sage dans sa maison à écrire des livres que de nouveau tribun sur les places italiennes ou haut d'un balcon.
Alors justement, les liens de D'Annunzio avec le fascisme, avant même d'entrer dans Fiume, il est déjà en relation avec Mussolini, dont il restera proche quelques années. Il n'appartiendra jamais au parti fasciste.
Non, il ne prend pas sa carte au parti fasciste. Au début de l'épopée de Fiume, le parti fasciste vient juste d'être créé, hein, en mars 1919, mais Mussolini est insignifiant. Il perd d'ailleurs lamentablement les élections, les premières élections après la guerre en novembre 1919. La vraie personnalité forte, la vraie figure en Italie à cette époque-là, c'est Gabriele D'Annunzio. D'ailleurs, c'est plus Mussolini qui s'inspire de D'Annunzio que D'Annunzio qui suit et qui soutient Mussolini. Et même s'ils sont en contact, Mussolini aura toujours une crainte de l'aura et de la popularité de D'Annunzio et de l'ombre que peut lui faire Gabriele D'Annunzio.
Va la nave silente, lieve un canto si sente. No, non dormono più, ma si veglia lassù con lo sguardo lontan. Sorge al fin quell'aurora, e col lembo che sfiora. E l'Italia, ma sì, tutti in piedi son lì e protendo le mani. Oh, Italia, è un pianto, un'invocazione. Terra, terra nostra d'amore, squilla dalla riva al vapore, il gran grido del cuore, patria e mamma.
Vous qui vivez en Italie, à Rome, Olivier Tosseri, comment est-ce qu'on regarde aujourd'hui, un siècle après, en Italie, cette parenthèse nationaliste de D'Annunzio à Fiume?
La popularité de cette page d'histoire est particulière puisque dans presque toutes les villes d'Italie, on a une place Fiume, une avenue Fiume. Mais cet épisode a été un peu oublié, délaissé, puisque après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, D'Annunzio avait mauvaise presse de tous les côtés. Pour la démocratie chrétienne, c'était l'écrivain décadent Ma femme. Pour les communistes, c'était le proto-fasciste, le soldat, le nationaliste. Et donc, on a un peu occulté cette page d'histoire. En plus, D'Annunzio était moins lu, sa prose rencontrait moins le goût du grand public. On a redécouvert ces dernières années cette épopée de Fiume, notamment grâce aux travaux de Claudia Salaris, qui est une historienne, qui a mis en exergue ce côté libertaire et avant-gardiste de Fiume.
Et utopiste.
Et utopiste, exactement. Et donc, ces dernières années, on redécouvre en Italie et la figure de D'Annunzio et cette épopée de Fiume.
On se quitte sur l'achèvement d'un autre rêve de grandeur italien, la perte d'une autre colonie. Ce sera 25 ans plus tard, la Libye et Tripoli, interprétée en 1969 par la chanteuse Patti Bravo.
mente, mi viene in mente te. Lo immagino lontano, dove non so, in cerca di battaglie perché.
Merci Olivier Tosserie, je renvoie Merci. Vers votre livre La folie d'Annunzio, paru chez Buchet-Chastel et tout fraîchement dans les librairies. Livre que vous présenterez demain, dimanche, au rendez-vous de l'histoire de Blois. Ce sera à 14h30 à la bibliothèque de l'Abbé Grégoire. Jukebox ce soir, c'était Agnès Catou à la réalisation, Antoine Villose de la discothèque, Amélie Briand, le jeune Alina. À la prise de son, c'était Julien Doumain, au micro à Maurice Chardot. Rendez-vous sur franceculture.fr, à la page de Jukebox, pour réécouter, télécharger cette émission et retrouver les références des archives et des morceaux diffusés à samedi 19h pour un prochain Jukebox.
Se penso che in questa storia anch'io ci sarò.